des tonnes de marchandises sont bloquées depuis deux mois au port fluvial dans la province de Tanganyika. Il y a notamment la baisse d'eau du fleuve qui ne permet pas l'évacuation de ces marchandises. Ce soir, nous serons à Kichanga, dans le Nord Kivu. Jungala va nous révéler ce que devient la vie économique de cette cité agro-pastorale où règne l'insécurité depuis plusieurs mois. L'actualité, c'est aussi les résultats de l'évaluation de l'impact du projet PARSA. Selon l'École d'économie de Paris, l'introduction de la semence améliorée dans l'agriculture a favorisé l'augmentation de la production, mais n'a pas du tout réduit la pauvreté dans l'ancienne province de l'Équateur. Bonsoir et bienvenue à tous. À Kongolo, dans la province de Tanganyika, 500 tonnes d'huile de palme traînent depuis deux mois au port fluvial. Cette marchandise attend d'être évacuée vers la ville de Lubumbashi. Et pour cause, le niveau d'eau du fleuve est en baisse et le nombre des baleinières a diminué, comme nous l'explique Expedi Mambamoubi dans ce reportage.
Des colis d'huile de palme partout. C'est le spectacle qui s'offre aux visiteurs qui arrivent au port de Kongolo. Plus ou moins 500 tonnes de cette marchandise attendent d'être évacuées depuis plus d'un mois. Et cela, au grand désarroi de ce commerçant. Les bateaux sont devenus rares. Il faut se battre pour avoir la chance de pouvoir charger sa marchandise. Les emballages sont usés. Cela fait deux mois que nous attendons. Le niveau du fleuve a baissé. Les baleinières de grand tonnage n'arrivent plus. Les quelques baleinières en accostage sont de faible capacité, comme l'explique ce membre d'équipage. Il y a trop de clients, moins de bateaux. Les colis d'huile de palme dépassent la capacité des bateaux. Les clients se disputent pour charger. C'est le spectacle que vous voyez là. Il y a 2000 fûts d'huile de palme. L'ensemble des baleinières en accostage aujourd'hui ne peut transporter que 350 fûts. Au même moment, plusieurs camions en provenance des centres de production continuent de décharger d'autres quantités d'huile de palme. Kalemi, Expedi Mambamoubi, Radio Okapi.
Et dans le Congo central, les travaux d'asphaltage de la route Songololo-Lufu sont lancés depuis ce week-end. C'est le gouverneur de province du Congo central, Jacques Mbadou Nsitu, qui a procédé au lancement des 10 travaux de construction de cette route longue de 15 kilomètres. Une route très fréquentée par les opérateurs économiques qui se rendent au marché transfrontalier de Lufu entre le Congo central et l'Angola. Guy Roger Niapala.
Il s'agit d'une route de 15 kilomètres de long et de 17 mètres de largeur. C'est l'entreprise Crexet qui va exécuter les travaux pour le compte de la société chinoise Sopeco pour une durée de 6 mois selon le ministre provincial en charge des travaux publics et infrastructures, Oscar Massamba. Ces travaux s'inscrivent dans un vaste projet d'asphaltage d'autres routes, notamment Mwanda-Yema. Le coût global est de 29 millions de dollars américains. Ces travaux sont financés sur fonds propres de la province du Congo central. D'après la même source, le gouvernement provincial du Congo central a cédé la gestion de ce péage à l'entreprise Sopeco pour une durée bien déterminé. C'est donc avec l'argent perçu que les travaux seront exécutés. Il faut dire que c'est par cette voie que passent toutes les marchandises et autres véhicules poids lourds qui proviennent de l'Angola voisin et celles qui entrent également au pays d'Eduardo Santos par le marché transfrontalier de Lufu. C'est une route frontalière de grande importance, affirme Jacques Mbadou Nsitu, gouverneur de la province du Congo central. La dite route, dit-il, ouvre cette province jusqu'en Afrique australe en passant par Luanda et Windhoek. Matadi, Guiroge Niapala, Radio Okapi.
Nous sommes dans le Nord Kivu. Généralement, Kichanga est présenté comme une cité agro-pastorale située à environ 80 km au nord-ouest de Goma, à la charnière entre les territoires de Masisi et de Rutshuru. De tous les temps, l'agriculture a coexisté avec l'élevage dans la région. Cette cohabitation de deux secteurs est-elle toujours la même aujourd'hui? Jungala Wamuna, qui revient de Kichanga, nous répond.
Tout observateur qui arrive pour la première fois à Kichanga peut être frappé par le nombre de gens qui, tôt le matin, se rendent dans les plantations autour de Kichanga. Ils vont cultiver, non pas pour eux-mêmes, mais pour des tiers propriétaires qui occupent l'essentiel des terres agricoles et qui utilisent ces hommes et ces femmes comme main-d'œuvre. Mais le nombre de ceux qui gagnent leur vie de cette manière depuis plusieurs années ne fait que diminuer, la plupart des plantations ayant été transformées en kikuyu, c'est-à-dire en ferme ou ranch, donc au profit de l'élevage. De sorte que les jeunes, par exemple, sont livrés au chômage par manque de terres cultivables occupées par les fermes. Ces jeunes constituent donc une proie facile pour les recruteurs de tous bords en faveur de groupes armés. Seule la mise en œuvre des projets présentés aux bailleurs techniques et financiers de Starec et I4S de la MONUSCO pourrait aider à lutter efficacement contre la délinquance des jeunes et donc contre les conflits récurrents dans la zone. De retour de Kichanga, Jules Galawa Mona pour Écho d'économie.
Dans la province du sud d'Ubangi, l'insécurité persistante en République centrafricaine continue à entraîner l'arrivée de nouveaux réfugiés dans cette province. À Zongoville, congolaise, en face de Bangui, la capitale centrafricaine, la population a sensiblement augmenté et la rareté des produits vivriers sur le marché pousse les habitants de Bangui à traverser la rivière Ubangi pour s'approvisionner dans les marchés périphériques de Zongo. Conséquence, les prix des denrées alimentaires ont doublé. Dominique Olombi.
L'insécurité causée par des rebelles centrafricains dans leur pays continue à faire fuir la population vers la RDC voisine. Ce sont des milliers de personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, qui ont trouvé refuge en terre congolaise, notamment à Zongo, ville située en face des Bangui. Dans cette ville, dit Stéphane Mompila de la société civile, les prix des produits vivriers tels que du maïs, du manioc et des légumes ont doublé sur le marché. De nombreux centrafricains, parmi lesquels ceux qui résident encore à Bangui, traversent la rivière Ubangi chaque jour et prennent d'assaut les marchés périphériques de la ville de Zongo, notamment les marchés de Orobe à 17 km en amont de la ville sur la rivière Ubangi, de Ndawele situé à 18 km en aval de Zongo et de Dola à 8 km ainsi que celui de Molé, localité où se trouve le camp de réfugiés du HCR. Information que confirme Georges Akake, président des opérateurs économiques de Zongo. Pour lui, les opérateurs économiques auraient pu profiter de ces marchés, mais la dégradation de la route ne permet pas à ceux de Bozene, de Dongo, de Bobito et de Boamanda d'acheminer leurs produits vers ces marchés. Georges Aka, qui en séjour actuellement à Kinshasa, annonce qu'il vient d'obtenir deux barges de 600 tonnes dans lesquelles les opérateurs économiques de Zongo vont embarquer des produits de première nécessité tels que du sel, du sucre, de la farine et des matériaux de construction. Mbandaka, Dominique Olombimonga Pangé, Écho d'économie.
Écho d'économie. L'école d'économie de Paris a présenté aujourd'hui à Kinshasa les résultats de l'évaluation de l'impact du projet PARSA sur les ménages de l'ancienne province de l'Équateur. Elle a réalisé cette étude pendant 3 ans sur une des 3 composantes de ce projet de 120 millions de dollars américains, précisément celle qui consistait à améliorer la productivité agricole et végétale. L'étude révèle que l'introduction de la semence améliorée dans la culture du manioc, maïs, riz et autres a favorisé l'augmentation de la production, mais n'a pas encore touché le vrai problème des ménages, c'est-à-dire réduire leur pauvreté. Tanguy Bernard est professeur à l'École d'économie de Paris. Il explique au micro de Daniel Tambinzoni.
Depuis 3 ans, nous avons collecté des données au niveau de ménages en Équateur, couvrant plusieurs milliers de ménages dans à peu près 200 villages. Des enquêtes très approfondies, des questionnaires de plusieurs heures auprès de chaque ménage avec 3 passages. Ces données nous ont permis d'avoir une représentation fine et fiable de la réalité statistique des conditions de vie en Équateur. Par ailleurs, l'étude incorporait l'évaluation de 2 interventions principales, l'une qui était l'impact des vulgarisations agricoles en général et de vulgarisations ciblées auprès des femmes, et puis l'étude d'impact de la distribution de coupons de réduction pour l'adoption de semences améliorées. Et ce que l'on trouve, c'est que les subventions aux semences améliorées amènent à une plus forte adoption des ménages en Équateur de semences améliorées, qui amènent par la suite des impacts encore faibles, puisque le niveau des quantités distribuées étaient faibles, mais néanmoins discernables sur la production des ménages.
À quel degré, à quel niveau vous mesurez l'impact du projet PARSA sur les ménages à l'Équateur?
Donc nous, ce que l'on peut mesurer, c'est, encore une fois, on regarde les interventions qui étaient de finalement assez faible ampleur pour l'instant, puisqu'on n'a pas pu évaluer l'impact des routes notamment. On a regardé pour certains ménages à qui des subventions avaient été distribuées pour les semences, mais il s'agit de petites subventions, comment est-ce que ça a changé leur productivité agricole, leur production agricole? Et ce que l'on trouve, c'est que pour des productions comme l'arachide, par exemple, la production a significativement augmenté. L'autre aspect que nous avons regardé, c'est comment est-ce que l'accès à ces technologies agricoles affecte les choix de production des ménages, et notamment les choix de terre. Et ce que l'on voit assez clairement, c'est que l'accès à ces technologies amène à moindre réutilisation des terres, et finalement amène les ménages à s'intéresser à des terres plus productives, ce qui amène parfois à défricher de la forêt secondaire, voire de la forêt primaire.
Un petit mot sur le PARSA, Daniel.
Bien sûr, Mireille. Le projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole, PARSA en sigle, a démarré ses activités en janvier 2011 pour une durée de 5 ans et devant initialement prendre fin le 15 décembre de l'année en cours. Mais ce projet vient de bénéficier d'une rallonge de 13 mois et devra se clôturer fin janvier 2017. L'objectif principal du PARSA est d'améliorer la productivité agricole et végétale dans l'ancienne province de l'Équateur démembrée. Cette amélioration devrait par la suite contribuer à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté, améliorer la commercialisation de produits végétaux et animaux des petits agriculteurs à la base dans les zones ciblées de la RDC. Cet objectif de développement, après la structuration du projet en 2014, est décliné en 6 objectifs spécifiques que voici. 1. Atteindre 103 000 ménages de petits producteurs, agriculteurs et éleveurs, dont 45% des femmes. 2. Accroître le rendement des cultures vivrières essentielles, notamment le maïs, le riz, l'arachide, le manioc, et tout récemment se sont ajoutées les cultures du soja et du niébé. 3. Augmenter le nombre de volailles produites annuellement par les petits éleveurs ciblés. 4. Augmenter annuellement la commercialisation de produits spécifiques ciblés. 5. Réhabiliter 2500 km de routes dessertes agricoles. Et 6. Enfin, construire 4 marchés et 16 entrepôts.
Écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Une édition mise en onde par Héritier Sidiatala et suivie par vous. Merci.